Bienvenue sur Fréquence Mistral, bonjour à tous. Vous écoutez Fréquence Mistral et exceptionnellement, notre journal régional n'aura pas lieu aujourd'hui car nous avons décidé de vous proposer une émission spéciale sur l'économie sociale et solidaire. Pendant une heure, nous allons évoquer ce secteur d'activité avec plusieurs invités. Et pour animer cette émission, j'accueille François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Odile, merci de nous ouvrir vos studios d'Unimois. Bonjour à tous, vous le savez, depuis 10 ans, le mois de novembre en PACA est le mois de l'économie sociale et solidaire, une belle initiative qui a été initiée par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, PACA. Elle est aujourd'hui déclinée nationalement et nous permet de mettre l'accent aujourd'hui sur un secteur en pleine évolution et un secteur qui résiste assez bien à la crise. J'ai le plaisir d'accueillir plusieurs invités que je vous présenterai au fur et à mesure de l'émission. Une émission construite sur deux axes, l'emploi et le service dans les territoires. Et le premier invité que j'accueille, c'est Henri Etcheverry pour la Ligue de l'enseignement, mais également pour l'UDES 04. Bonjour Henri.
Bonjour.
On peut, avant de parler de l'UDES, rappeler quelles sont les quatre grandes familles de l'économie sociale et solidaire, Henri ?
Oui, donc traditionnellement, si on a une approche statutaire, il y a évidemment les associations, les mutuelles, les coopératives et les fondations.
Les associations, vous connaissez bien, les mutuelles également, les coopératives, les fondations. L'économie sociale et solidaire, ça représente aussi beaucoup d'activités dans les territoires et notamment dans les Alpes de Haute-Provence.
Oui, effectivement, notre région PACA est la troisième région, se situe donc à la troisième place des régions pour l'économie sociale et solidaire. Et à l'intérieur de la région PACA, notre département se situe juste après les Hautes-Alpes en termes de pénétration de l'économie sociale et solidaire dans son tissu local. Dans notre département, ça représente tout de même 2461 établissements, donc sur ces quatre familles dont on a parlé, 925 établissements employeurs, ce qui représente 12,3% des établissements employeurs et 13,6% des établissements privés, donc c'est assez significatif. Et en termes de nombre d'employés, nombre de personnes qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire, nous sommes à 5257 salariés, ce qui représente 11,7% des salariés du département. Ça représente 4479 équivalents temps plein et 112 millions, presque 113 millions d'euros de salaires bruts qui sont distribués chaque année. Donc on voit bien que c'est un secteur extrêmement significatif de l'économie, alors qu'il n'y a peut-être pas toute la reconnaissance souhaitée, parce que c'est vrai que ces entreprises sont assez multiformes, et qu'il n'y a pas pour le grand public une entrée, une vision simple, directe de ce secteur. Mais ça commence à changer. Et grâce à des émissions comme la vôtre, à Fréquence Mistral, effectivement, l'économie sociale et solidaire commence à être connue et peut-être bientôt, nous l'espérons, reconnue.
On rappelle également que la semaine dernière, les sénateurs ont voté une loi importante, une loi fondamentale en ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, et que le ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation, Benoît Hamon, est en pointe dans ce domaine. On va suivre ça avec grand intérêt, car c'est la reconnaissance, vous en parliez Henri, de ce secteur d'activité. L'UDES 04, qu'est-ce que c'est très exactement ?
L'UDES 04 est assez récente, hein, puisque c'est une structure sous forme associative que nous avons créée en juin dernier, qui regroupe actuellement plus d'une vingtaine de structures de l'économie sociale et solidaire, issues des familles dont on a parlé, les associations, les mutuelles, les coopératives. Pas de fondation pour le moment dans notre département. L'objectif de cette union départementale de l'économie sociale et solidaire, assurer une représentation de ce secteur auprès des institutions publiques. Ça revient à ce que je disais précédemment, hein, avoir une meilleure visibilité, une meilleure reconnaissance. C'est aussi participer à la construction des politiques publiques, parce qu'on y reviendra sans doute dans notre débat. Il y a un enjeu réel pour nos territoires de développer cette économie. C'est informer et former à la connaissance de cette économie, de ses valeurs, des outils aussi qui lui permettent de se développer. C'est favoriser les échanges techniques et économiques entre les structures qui la composent. J'ai déjà dit effectivement que c'était assez multiforme. Ça veut dire aussi que nombre des acteurs de cette économie sociale et solidaire n'ont pas nécessairement l'habitude de travailler ensemble. Ce qui peut paraître étrange, puisque à la base des valeurs justement que nous portons, il y a la coopération. Mais déjà, il faut qu'on apprenne à coopérer entre nous, et l'objectif de cette réunion départementale, c'est de favoriser cette mutualisation, ce travail ensemble, cette coopération. Et puis, c'est aussi articuler des collaborations que nous avons nommées positives avec les entreprises de l'économie classique. Et là aussi, on y reviendra probablement, dans ceux qui représentent l'économie sociale et solidaire, il peut y avoir aussi des différences de point de vue ou, disons, des colorations plus ou moins marquées. Pour certains, l'économie sociale et solidaire peut constituer une alternative au modèle économique classique. Pour d'autres, elle en est un complément nécessaire. Bref, le dialogue existe au sein de notre mouvement. Mais en tout cas, ce qui nous paraît important, c'est qu'effectivement, l'entreprise classique puisse à un moment donné s'inspirer de ce que peut apporter l'économie sociale et solidaire, notamment en termes de rapport au territoire, en termes de gouvernance. Et de la même manière, il est important que l'économie sociale et solidaire puisse s'inspirer aussi de méthodes, de façons de fonctionner efficaces issues d'autres formes économiques. Donc il faut que ce dialogue s'instaure, ne serait-ce évidemment au plan local que pour permettre aux acteurs de mieux fournir les projets, de mieux envisager des constructions pour le meilleur devenir de nos territoires. Et ça inclut évidemment aussi tout le secteur public et les décideurs politiques.
Et on verra demain dans cette même émission, mais qui sera diffusée, qui sera réalisée en direct de Gap, l'expérience d'une SCOP qui a été montée par un architecte qui a préféré avoir une société coopérative plutôt qu'un cabinet classique d'architecte. C'est la SCOP Voléa et on verra ça demain sur Gap. Henri Etcheverry, vous êtes également l'un des responsables de la Ligue de l'enseignement, qui, pour le mois de l'ESS, a prévu beaucoup de rendez-vous et d'animations.
Oui, alors en fait, donc je suis là, je vous parle avec ma casquette UDES. Je suis au sein de l'UDES pour représenter la famille associative et donc je représente la Ligue de l'enseignement. Simplement pour terminer sur ce sujet, enfin en ce qui concerne la formation de l'UDES, la présidence donc a été donnée à un représentant des associations et il y a deux vice-présidents, donc Catherine Bertonèche pour les coopératives et Jackie Comte pour les mutuelles. Donc les trois familles sont effectivement représentées à la gouvernance de l'association. Alors la Ligue de l'enseignement participe évidemment à différentes manifestations dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, mais elle n'y va pas toute seule. On est vraiment là dans cet esprit de coopération, de travail en commun. Par exemple, nous participons pleinement à la mise en place avec le réseau local d'accompagnement de l'économie sociale et solidaire, dont nous sommes un des co-animateurs avec Sport Objectif Plus, et avec le Conseil de développement du Pays d'Innois, à une initiative qui se reproduit d'année en année, qui consiste en fait à promouvoir l'économie sociale et solidaire dans notre département. Et nous avons essayé plusieurs méthodes pour cela, parce que la difficulté, c'est effectivement de trouver en face le grand public. On a assez peu de difficultés à nous réunir entre nous, à intéresser les politiques, à intéresser les techniciens, mais ce qu'on cherche, c'est le grand public. Et donc, pour la deuxième année consécutive, on a mis en place un concours vidéo régional qui a donc pour objet de faire émerger des petites vidéos de 3 minutes qui vont présenter un projet particulier d'économie sociale et solidaire. Ce concours vidéo est ouvert. Et donc, François, si je le peux, je vais donner l'adresse du site.
Bien sûr, mais brièvement, Henri.
Très brièvement, pour aller voir ces vidéos et pour pouvoir voter pour elles. Hein. Donc, c'est www.moi-ess-04.org. Voilà, donc une dizaine actuellement de films sont en compétition et ils seront Ils seront donc projetés le samedi 7 décembre à Digne-les-Bains, à la médiathèque. Et là, on pourra effectivement élire le ou les films vainqueurs de cette petite compétition. Et ça se situera aussi dans le cadre d'une balade solidaire à Digne, où là, on va proposer donc aux habitants et à ceux qui souhaitent nous rejoindre d'ailleurs, de parcourir, de découvrir la ville de Digne, mais à travers des lieux d'économie sociale et solidaire, où ils seront accueillis et avec une petite animation à chaque fois.
Et avec un support intéressant qui est la vidéo pour ce qui est de votre concours, Henri. Absolument. Il y a également pas mal d'activités en ce qui concerne les jeunes actuellement que vous portez.
Oui, alors là, effectivement, on a mis en place... Alors là, c'est très prochainement, c'est mercredi prochain, au Palais des Congrès à Digne, un forum initiative jeune. Alors pourquoi ? Bon, c'est assez simple. Hein. L'objectif, c'est effectivement de modifier un petit peu la perception qu'on peut avoir de la jeunesse. La jeunesse n'est pas une charge, la jeunesse n'est pas un boulet qu'on traîne et qui causerait des soucis localement. La jeunesse, c'est effectivement un espoir, c'est un potentiel de développement de projets, et c'est cette dynamique-là que nous souhaitons enclencher en montrant que les jeunes déjà se bougent.
Et concrètement, ça donne ?
Alors concrètement, donc ça donne à partir de 13h30, hein, on accueille. Il y aura des stands dédiés aux jeunes pour leur montrer eh bien toutes les dynamiques qui leur sont proposées en termes d'aide aux projets, en termes d'accompagnement de projets. Il y aura aussi des spectacles, notamment des spectacles de danse. Il y aura des temps d'expression libre pour que les jeunes nous donnent leur expérience, que ce soit par les bourses qu'ils ont pu obtenir par Envie d'agir, les juniors associations qu'ils ont pu monter, les expériences qu'ils ont pu avoir en tant que volontaires service civique. Bref, on va balayer un petit peu tout ce champ de l'engagement des jeunes. Et puis, il y aura aussi des paroles d'institutionnels et des remises aussi de médailles ou de prix, de récompenses par la direction départementale de la cohésion sociale et la protection des populations auprès d'un certain nombre de jeunes qui auront une expérience exemplaire. Voilà, donc c'est un accès évidemment gratuit, et puis c'est un accès surtout de dialogue, donc tout le monde est bienvenu pour travailler autour de ces questions du développement de nos territoires par la jeunesse.
Mercredi 20 novembre, c'est au Palais des Congrès à Digne-les-Bains. Merci Henri, vous restez avec nous bien sûr. L'économie sociale, vous le savez, c'est quelque chose de très vaste, des activités qui reposent souvent sur des personnalités salariées et bénévole, et c'est une de ces personnes particulièrement actives qui prend le relais d'Henri Etcheverry, Freddy Gelot, qui représente la Massif et également la protection civile. Bonjour Freddy.
Bonjour, bonsoir.
Une mutuelle et une association de secours aux personnes, vous cumulez Freddy ?
Ah, je cumule même beaucoup plus que ça, puisque les casquettes sont assez nombreuses. Je suis aussi donc à l'UDES, non pas avec la Massif, mais avec la protection civile. Je suis au conseil de développement aussi du Pays d'Ignois avec Henri, dans le GAL Leader qui gère ses fonds européens pour les projets de développement locaux, donc je suis dans pas mal de choses.
Et le week-end, vous portez le costume orange de la protection civile parce que vous vous ennuyez un petit peu, quoi.
C'est ça, voilà. Ne sachant pas quoi faire des week-ends, il m'arrive souvent de porter le costume bleu et orange de la protection civile, y compris aussi sur une partie de mes congés. Donc je suis moniteur de secourisme, et donc aussi à ce titre-là, effectivement, je passe une partie de week-end ou de congé à former le public ou les associations à ces gestes de premier secours pour apprendre à chacun, voilà, à agir vite en situation d'urgence et de danger. Oui.
Et pour servir la population, bien sûr. Freddy, quelle est l'utilité d'une mutuelle et à qui appartient-elle ?
Alors, l'utilité d'une mutuelle, déjà, la mutuelle, c'est une société d'assurance. Hein, donc, la Massif, c'est avant tout un assureur. Comme le disait Henri, on n'est pas forcément perçu comme un assureur mutualiste ou comme faisant partie de l'économie sociale et solidaire, parce que beaucoup de gens ne savent pas très bien ce que c'est. Donc, au niveau de la Massif, effectivement, on essaye de faire de l'assurance, mais aussi d'avoir ces valeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, d'essayer de faire de l'assurance, d'être rentable sur le plan économique, bien sûr, comme toutes les sociétés d'assurance. Et puis d'avoir aussi les valeurs qu'on essaye d'incarner à travers un certain nombre de process ou de choses que l'on a mis en place, notamment de la solidarité là aussi. Donc on a par exemple un fonds de solidarité à la Massif qui fait que lorsque quelqu'un est en difficulté, n'arrive plus à payer ses loyers, ses factures et autres, il peut nous solliciter et nous avons un fonds spécial. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et nous avons un fonds spécial que nous alimentons, qui est au service donc de nos sociétaires, puisqu'on ne parle pas de clients dans ce qui nous concerne, mais de sociétaires. Et nous attribuons des aides, 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 euros à ces personnes qui sont en difficulté sociale. C'est en plus, je dirais, de notre métier d'assureur.
C'est également une entreprise mutuelle, mutualiste. J'ai pour mémoire tout simplement certains films qui passent sur la télévision publique, évidemment, qui sont sponsorisés par la Massif. Vous sponsorisez également la météo. Il y a un côté agressif que l'on a chez les mutuelles, chez les assurances de type privé qui sont là pour faire des bénéfices, des profits, et que l'on retrouve un petit peu en termes de marketing à la Massif.
C'est vrai que pendant longtemps, la Massif, elle n'a absolument pas fait de publicité parce que le directeur général de l'époque était contre toute forme de publicité. Et puis, on s'est aperçu qu'à un moment donné, il faut aussi, vis-à-vis du grand public, se montrer, se faire voir. Parce que si on reste absolument discret et seulement perçu par nos propres sociétaires, bien à un moment donné, le grand public, il va plutôt vers ceux qui communiquent beaucoup, qui sont beaucoup à la télé, qui font de l'humour à la télé, etc. Et puis, ils oublient un peu qu'il y a aussi d'autres assureurs, même s'ils ne sont pas présents sur le petit écran. Donc, le nouveau directeur général, il y a quelques années déjà, a décidé qu'on soit beaucoup plus présent sur la télévision, même si ça coûte très cher. C'est un gros budget.
Je m'en doute, c'est effectivement.
C'est un budget qui est payé par nos sociétaires. Donc, on essaye d'être économe de l'argent de nos sociétaires, de ne pas le gaspiller. Mais malgré tout, d'être présent sur le petit écran pour se montrer un peu. Et puis se faire connaître pour attirer aussi de nouveaux sociétaires, puisqu'on a besoin, comme je vous le disais, aussi, au-delà des valeurs, d'être économiquement viable.
Et vous montrez et vous valorisez également des dynamiques territoriales, des dynamiques de développement durable assez intéressantes, notamment sur les économies d'énergie.
Oui,
J'ai remarqué ça.
Oui, c'est ça. On essaye de favoriser les économies d'énergie et les énergies nouvelles. On a des crédits spécifiques, à des taux avantageux pour les personnes qui s'équipent en chauffage solaire ou autre. On a aussi, en ce qui concerne la gouvernance, et pour répondre à ta question, la gouvernance, c'est l'un des points qu'évoquait Henri, c'est finalement l'une des particularités des entreprises de l'économie sociale, c'est qu'on est sur un mode de gouvernance où un homme égale une voix, et où l'entreprise n'est pas dirigée par un conseil d'administration composé d'actionnaires, mais par des représentants des sociétaires. Donc en fait, on est actuellement d'ailleurs dans les élections là actuellement de délégués de sociétaires. Donc chaque, sociétaire Massif est appelé à voter pour une liste d'économie sociale. Alors ça représente les commerçants, les associations, les syndicats, etc. Il y a différentes sensibilités qui sont représentées. Les délégués ensuite vont élire en leur sein un conseil d'administration régional qu'on appelle comité régional. Et ce sont des membres de ce comité régional qui vont siéger au conseil d'administration de la Massif.
Donc ils sont vraiment représentatifs de la base et des utilisateurs, entre guillemets, de la Massif.
Voilà, le but c'est que tout le monde soit en relation et que n'importe quel sociétaire puisse, quand il a un souci avec la Massif ou un problème relationnel, qu'il puisse appeler son délégué et lui dire « voilà, il faut que tu interviennes parce qu'au niveau de la technostructure, on ne se comprend pas ». Et à ce moment-là, on est sollicité par nos délégués pour intervenir et régler les problèmes et ça fonctionne comme ça.
Merci Freddy Gello. La Massif, assurance banque santé, c'est ça le slogan,
on fait aussi de la banque depuis quelques temps, oui.
Merci Freddy. Merci. Je vous propose l'interview de deux bénévoles. Il existe une association pour laquelle le libellé social et solidaire convient parfaitement. Ce sont les Restos du Cœur. Et à l'aube d'une campagne qui s'annonce une fois de plus difficile, Olivier Mouly est allé interviewer Solange Biancheri et Solange Domingue, tous deux bénévoles au Restos du Cœur de Riez, une des 14 antennes des restos dans le 04. Elles évoquent le nombre et le profil des bénéficiaires de l'association créée par Coluche.
Pourquoi, dans le territoire, avoir choisi Riez pour l'implantation de ces Restos du Cœur ?
Parce que ça représentait 80% de la population aidée et que lorsque nous étions à la Bégune, les gens faisaient du covoiturage dans de mauvaises conditions et que nous sommes plus près de la population ici. C'est une région en grande précarité qui a été signalée au niveau PACA. Surtout au niveau des mamans et des enfants, la première enfance, la petite enfance et les jeunes femmes enceintes.
Quel est le taux d'emploi, de chômage des demandants ? Solange Domingue ?
La plupart sont au chômage, en RSA. Nous avons malheureusement, ça c'est plus difficile à vivre, des AAH.
C'est-à-dire ?
Ce sont des personnes handicapées adultes, dont les revenus sont, s'ils ne sont pas propriétaires, s'ils sont locataires, sont insuffisants pour pouvoir s'alimenter décemment et s'habiller décemment.
Un facteur très important, c'est que Riez, pour les personnes justement à AH qui ont des soins lourds, nous sommes loin des structures médicales. Et le fait de se déplacer pose un problème financier à tous ces gens-là et qui vient se rajouter à leur disponibilité financière. On ne peut pas aller à Manosque tous les jours en soins, ce n'est pas possible.
Pensez-vous que c'est un assistanat ou c'est une aide vraiment les Restos du Cœur ?
Ce n'est pas un assistanat.
Solange Demange ?
Non, ce n'est pas, on n'appelle pas cela un assistanat. Nous apportons une aide alimentaire, une écoute, un accueil pour des personnes qui sont en difficulté, en précarité. On n'a pas à juger de ce qui est de l'ordre de l'assistanat qui serait mérité ou pas. Hein, pas du tout. Simplement, au vu de la pauvreté et de la précarité des gens, on apporte ce qu'on peut apporter, une aide alimentaire, une écoute et un accueil.
Est-ce que le Resto du Cœur apporte un service que l'on ne trouve pas autrement ?
L'aide alimentaire, c'est vrai que les Restos du Cœur ne sont pas les seuls à l'apporter. La Croix-Rouge, en fait, d'autres formations humanitaires aussi l'apportent, mais la régularité et le principe fondateur de l'aide alimentaire est quand même spécifique des Restos du Cœur. Sur la notion de partage, le trop-plein d'alimentaire, les surplus de l'Europe, tout cela fait partie de ce qu'on peut donner en partage aux gens qui en ont besoin. Voilà. Ça, c'est la spécificité des Restos du Cœur. Mais l'écoute, l'accueil, bien d'autres structures aussi l'apportent, mais nous l'apportons à égalité avec ces structures.
Que retenez-vous de la présence des Restos du Cœur depuis cette installation ici à Riez ?
À partir de notre installation, qui n'a que 2 ans d'existence, c'est la 3e année que nous sommes ici, on a été très, non pas surpris, on s'y attendait, mais on a plus que doublé nos personnes accueillies par rapport à notre installation qui a été celle de la vallée de l'Asse où il y avait beaucoup moins de population et on a été étonnés par, enfin, pas étonnés exactement mais on n'était peut-être pas tout à fait préparés à l'importance du nombre de gens qui sont venus ici.
Et vous, Solange Benkéry, qu'avez-vous retenu de votre présence au Resto du Cœur depuis l'ouverture ?
L'accessibilité de nos services, du fait que nous avons des formations qui nous aident aussi pour faire partie d'autres commissions, nous sommes beaucoup plus ouvertes aux problèmes qu'ont les gens et nous pouvons les rediriger dans des structures sociales ou auprès des services administratifs et sociaux.
Par exemple, quelles associations ou services ?
Toutes les deux, nous faisons partie de la CLI, la commission locale d'insertion pour le RSA. Nous recevons une formation au niveau du département sur le RSA, sur les conditions. Nous avons un nouveau service juridique qui se met en place sur le département. Et ça nous permet aussi d'apporter une aide très, très ponctuelle et de pouvoir diriger les gens sur les services bien ciblés.
Deux bénévoles des Restos du Cœur de Riez. Une réaction, Henri Echeverri, Freddy Gelot, sur ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, alors évidemment, on pourrait avoir différentes réactions, puisque là, c'est un sujet qui nous concerne tous et qui est grave. Mais pour le relier au sujet de notre discussion de ce jour, je dirais que, par rapport à l'économie sociale et solidaire, je crois que ce qui ressort de ça, c'est l'importance, la nécessité de partir des besoins de la population pour construire des réponses. L'initiative associative reste effectivement une force majeure dans ce cadre-là. L'économie sociale et solidaire apporte aussi son aspect d'innovation sociale. Donc ce sont des éléments importants à prendre en compte par rapport à la détresse de la population, aux réponses qui peuvent être apportées. Notre économie a quelques réponses dans ce domaine, effectivement.
Freddy Gelot, c'est l'expression de la solidarité.
Oui, tout à fait. Heureusement que les associations sont là pour compenser effectivement les carences et les absences dans de nombreux domaines de l'État, des régions, des départements. Aujourd'hui, on s'appuie de plus en plus sur des réseaux associatifs pour apporter justement toutes ces réponses. Et heureusement que les Restos du Cœur sont là pour toutes ces personnes qui, au jour le jour, sont inquiètes de savoir ce qu'ils vont donner à manger à leurs enfants. Sinon, je crois qu'on serait vite dans un pays du tiers-monde.
On voit que l'économie sociale et solidaire joue un rôle important dans les territoires. C'est vrai aussi sur le terrain de l'emploi. Et l'emploi, justement, c'est le domaine d'un organisme essentiel, Pôle emploi. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Jules, directeur territorial 04 et 05 de Pôle emploi. Bonjour, monsieur le directeur.
Bonjour.
Merci de votre présence. Quelle perception de l'économie sociale et solidaire ont vos services de manière générale?
Alors, à ce stade, c'est vrai qu'aujourd'hui, les conseillers de Pôle emploi, alors on l'a vu, hein, on a vu toute l'importance. Avant de parler de la perception des conseillers, ce qui est important, quand même, dans l'économie sociale et solidaire, c'est les valeurs. On en a parlé ce matin. Et je pense qu'effectivement, ce volet-là, aujourd'hui, il est connu des conseillers, en lien direct avec plein de structures qui sont plus ou moins dans l'économie sociale et solidaire. Donc en fait, je dirais que conseiller travaille dans l'économie sociale et solidaire sans le savoir forcément. Et c'est pour ça que c'est important, tout à l'heure on parlait de la création de l'UDESS 04, c'est important aujourd'hui de les fédérer. Et derrière cela, ça permettra aussi de donner plus de visibilité aux conseillers sur le regroupement dans le 04.
Ça veut dire que ça va faciliter le travail de vos services par rapport à ce secteur d'activité?
Alors bien sûr, on en parlera tout à l'heure. C'est vrai que bon, je suis sur les deux départements. C'est un peu plus avancé sur le 05 par rapport à ça. On a déjà entamé du travail dans ce sens. Il y a deux choses importantes. D'un côté, ça permet effectivement de fédérer. Et de l'autre côté, ce qui est important aussi, c'est qu'après, chaque structure, on a vu les différents types de structures de l'ESS, chaque structure a ses spécificités. Donc fédérons au sens large et après traitons la problématique très particulière de chaque structure. Et c'est un lien avec notre territoire aussi, hein, la richesse de notre territoire.
La mission principale de Pôle emploi, c'est d'aider les chômeurs à trouver un emploi ou bien une formation. C'est plutôt difficile en cette période de crise.
Alors c'est pas simple, hein. Forcément on est dans une période de crise, bien que ces trois derniers mois, notamment sur les jeunes, tout à l'heure on parlait des jeunes, et sur les seniors, on est dans une stabilisation dans le 04 et on espère qu'on va dans le bon sens. Après aujourd'hui c'est des chiffres, l'important pour moi c'est de traiter la réalité de ce que l'on vit sur nos territoires. On parlait des formations, on a des outils aujourd'hui, il y a les contrats aidés, il y a les formations. L'objectif clair de Pôle emploi, je vais l'imager comme cela. Au centre du cercle, on a aujourd'hui les demandeurs d'emploi et les entreprises. Le but de Pôle emploi, et notamment par le biais des formations, c'est de rapprocher les deux et de faire en sorte que les demandeurs d'emploi correspondent aux besoins des entreprises. Donc c'est très clair, on a des outils aujourd'hui, on sait les amener au plus près du territoire. On est dans la vallée du Bail, on est partout. Donc quand je dis « on », ce n'est pas spécifiquement Pôle emploi, c'est tous les partenaires. On a un territoire riche et comment, avec les outils que l'on a, faire en sorte que les demandeurs d'emploi du 04 puissent bénéficier de l'emploi du 04 aussi. Ça veut dire bien connaître notre territoire aussi.
On va écouter tout à l'heure un de vos partenaires importants qui est Mission Locale, et justement les jeunes sans expérience, mais aussi les chômeurs longue durée, les mères de famille éloignées de l'emploi pour se consacrer à l'éducation des enfants, les personnes handicapées ou bien les seniors. Ces types de publics n'intéressent pas ou si peu les entreprises. Heureusement que l'ESS est là.
Ben, c'est sûr que je parlais de valeurs, les valeurs sont là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors on a l'insertion par l'activité économique, on a des outils encore une fois, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un territoire à taille humaine où on peut répondre aux besoins des humains qui habitent sur notre territoire. Et on le voit ce matin dans l'émission avec les partenaires qu'il y a autour de la table, il y a une vraie volonté. On parlait de multicasquettes, les multicasquettes sont liées aux besoins, c'est pas lié au fait d'avoir plusieurs casquettes. Donc on est là pour répondre aux besoins de la population, donc comment on le fait le mieux ensemble? Et à titre personnel de directeur territorial de Pôle emploi, dans le 04, je souhaite que l'émission soit le démarrage d'un travail plus profond avec l'ESS, bien évidemment.
C'est-à-dire qu'avec des organismes comme Mission Locale ou bien Sport Objectif Plus, Henri Echeverry en parlait tout à l'heure, c'est un partenariat positif, mais qu'il faut encore plus développer?
Alors avec les missions locales, c'est un partenariat qui date, c'est-à-dire c'est un partenariat historique. Après, effectivement, on a toujours à s'améliorer dans les partenariats et on a à innover aussi. On parlait de la quand on parle de l'ESS, c'est pas que les valeurs, c'est aussi l'innovation. Et on a la chance d'avoir des structures qui parfois sont petites à taille humaine, mais qui aussi ont un volet innovation très important. Et une des solutions à la crise, et là c'est pas que dans le 04, passera par l'innovation. Et il faut pas l'oublier, c'est-à-dire que si on crée des créneaux intéressants, c'est là qu'effectivement on trouvera des niches d'emploi. Et il faut, comme les secteurs qui recrutent de masse, par exemple hôtellerie-restauration, Pour autant, on a des secteurs aujourd'hui où on peut développer l'innovation et il ne faut pas s'en priver, au contraire.
On va parler innovation tout à l'heure avec Tristan Klein pour Mosaïque et puis avec également Laure Van Orenberg pour la plateforme d'initiative locale. Il est un partenaire évident des communes, des entreprises et des associations. C'est aussi un acteur essentiel pour la jeunesse, on vient de l'évoquer. Mission Locale est une entité importante qui est présente sur tout le 04. Patrick Martellini, président de Mission Locale, répond aux questions de Patrice Vernet. Il évoque les prérogatives de cette structure. Patrick Martellini.
D'abord, c'est une association qui est composée d'un certain nombre de partenaires institutionnels, d'associations, de socioprofessionnels. Donc, il y a plusieurs acteurs qui interviennent sur la mission locale. Et il y a également une équipe de techniciens, 25 personnes, qui interviennent sur l'ensemble du département, mais on y reviendra dans quelques temps. La mission locale, c'est avant tout l'insertion des jeunes de moins de 26 ans, des jeunes qui sont bien sûr en difficulté, qui ont besoin d'accompagnement et qui ont besoin effectivement d'équipes, de techniciens qualifiés qui vont, pour ces jeunes, trouver la bonne mesure pour la bonne personne, que ce soit des mesures qui leur permettent de trouver un emploi, de trouver une formation, bref, qui peut intervenir dans ce public qui nous prête beaucoup soucis aujourd'hui. Et qui ont des difficultés à trouver un emploi. Pour information, on a de l'ordre de 8% d'augmentation des jeunes accueillis entre l'année dernière et cette année à la même époque. C'est dire combien la tâche est importante. Donc la mission locale intervient dans le cadre de l'accueil, de l'accompagnement et du suivi des jeunes en difficulté d'insertion.
Pour ce faire, quels sont les outils mis à votre disposition ?
Alors, d'abord, je le disais tout à l'heure, il y a une équipe de techniciens qualifiés. On a 25 personnes qui interviennent sur l'ensemble du département des Alpes-de-Haute-Provence, sur trois antennes principales. Enfin, Saint-Auban accueille également le siège de la mission locale, mais est une antenne locale, à Manosque également, à Digne également, mais avec un certain nombre de points d'accueil qui permettent à des jeunes qui ont la plupart du temps aussi des difficultés à se déplacer, d'avoir sur place, dans leur territoire, dans leur commune ou à proximité, un accueil de qualité. Donc il y a une équipe qui est structurée, qui est organisée, qui est dirigée donc par Marie-Claude Lombard, une équipe qui est en capacité de maîtriser toutes les mesures qui fait le service de l'emploi aujourd'hui et qui est en capacité surtout de faire des propositions à ces jeunes à tout moment de leur vie et de leur parcours.
Et les outils, donc, à votre disposition ?
Il y a des mesures, il y a des mesures qui existent. La mission locale dispose aussi de finances pour assurer cette action, que j'espérerais être plus importante, mais avec un budget un petit peu supérieur à 1 million d'euros, on arrive à malgré tout, parce que mes collaborateurs ne sont pas trop regardants, à faire un travail de grande qualité. Donc il existe effectivement pas mal de mesures. Il y a des mesures phares, comme aujourd'hui. On parle beaucoup d'emploi d'avenir et ça fait partie de la boîte à outils dont dispose chacun des techniciens et qu'ils mettent à disposition des jeunes dans le cadre de leur parcours d'insertion. Mais je crois que ce qui est important, indépendamment de ce que l'on peut entendre de ci, de là, des objectifs qui sont fixés en particulier par l'État, par le gouvernement, c'est que nous essayons toujours d'être dans la qualité. C'est-à-dire, je le dis tout le temps, je l'ai encore dit il n'y a pas si longtemps que ça, la bonne mesure au bon jeune et au bon parcours d'insertion de ce jeune.
Institution, association, depuis 30 ans, le regard sur la mission locale a changé ?
Le mien a changé. Après, j'espère que celui des autres également. Moi, j'ai envie que la mission locale soit reconnue par l'ensemble des partenaires institutionnels, par les services de l'État. C'est une structure qui est dirigée par une équipe technique, mais qui est présidée chaque fois par un élu local. Donc ça veut dire quelqu'un qui est sur le terrain, qui connaît les problèmes des jeunes et qui est en capacité et en mesure de les faire remonter. Donc je crois que la mission locale aujourd'hui, dans le service public de l'emploi, a toute sa place, existe, et moi j'ai envie de la faire encore plus exister dans le monde institutionnel pour que le travail, des collaborateurs soit vraiment reconnu comme un travail de qualité. On ne rentrera pas dans les chiffres, ça n'intéresse pas forcément les auditeurs, mais je peux vous assurer que des solutions aux jeunes, on en trouve tous les jours. Bien sûr, c'est un travail de longue haleine et puis c'est un travail aussi où il faut la complicité des jeunes. Et c'est souvent la chose la plus compliquée à trouver.
C'est le mois de l'ESS en tant que président de la mission locale. Si vous aviez un souhait à formuler?
Eh bien écoutez, moi ce que je souhaiterais bien sûr, c'est qu'il y ait beaucoup moins de jeunes qui soient sans emploi, qu'on trouve du travail à tout le monde. Vous savez, je préside une communauté sur un territoire qui est en train de rebondir, de repartir parce qu'on a plein de projets. Donc mon souhait le plus grand, c'est que tous ces jeunes trouvent dans la proximité de là où ils sont un emploi. Parce qu'on a besoin de cette jeunesse, on a besoin du renouveau de nos populations et c'est par les jeunes que ça passera.
Patrick Martellini, président de Mission Locale et également maire de Château-Arnoux-Saint-Auban et président de la communauté de communes Moyenne Durance. Stéphane Jules, pour Pôle Emploi, il y a concordance d'objectifs entre Mission Locale et Pôle Emploi?
Alors clairement, et Patrick l'a dit, on est dans le service public de l'emploi et du 04. Et l'important, c'est le concret des actions que l'on mène ensemble. Et puis après, c'est des actions dans le service public de l'emploi. Il y a Pôle Emploi, la Directe, la Préfecture, Cap Emploi, la Mission Locale. Donc on est vraiment, et toutes les chambres consulaires, on est vraiment dans l'action commune et l'action adaptée à notre territoire. C'est important de le dire.
Cependant, ces structures manquent un petit peu de nerfs en termes de communication pour expliquer aux jeunes, par exemple, qui ont 20 ans et qui cherchent un travail, une formation, tout simplement d'aller pousser la porte de mission locale. Ça n'est pas si évident que ça pour les structures.
Alors, c'est sûr que... Mais c'est la jeunesse au sens large. Aujourd'hui, on a des jeunes, sans faire de ligne droite, mais on a des jeunes qui partent faire leurs études à Aix, ils reviennent ici pour plein de raisons, soit parce que financièrement, ils ne peuvent pas rester à Aix, soit parce qu'ils n'ont pas de boulot à Aix. Donc, on est dans une réalité. Derrière, il faut arriver à motiver les jeunes. On fait beaucoup d'actions envers les jeunes. Après, effectivement, c'est la jeunesse, quoi. Donc, il y a aujourd'hui des jeunes qui, malgré que l'on fasse des actions, des fois, ne sont pas intéressés. Donc, il faut vraiment trouver le bon canal d'entrée avec eux. Et il faut aussi, on parlait d'innovation, il faut aussi leur proposer des perspectives innovantes en lien avec le territoire où ils veulent habiter.
Et en même temps que les jeunes se bougent eux-mêmes. Ça aussi, c'est un message qu'il faut faire passer. À vos côtés, Stéphane Jules, Laure Van Orenberg. Bonjour, Laure.
Bonjour, François.
Vous dirigez la plateforme d'initiative locale qui est basée à Digne, Initiative Alpes du Sud. Vous pouvez nous présenter votre structure?
Bien sûr. Donc, plateforme Initiative Alpes du Sud est une des 230 plateformes du réseau Initiative France. Notre vocation, donc, nous sommes des associatifs en marge de l'économie sociale et solidaire. Je vais expliquer un petit peu plus mon propos. Notre mission principale est d'aider les porteurs de projets en création, reprise et croissance d'entreprise via donc un prêt d'honneur à taux zéro qui est constitué de fonds publics principalement, un accompagnement et du suivi personnalisé en amont et ensuite lors de toute la durée de vie de l'entreprise, du parrainage entrepreneur et un accompagnement global durant toute la vie de l'entreprise.
Vous avez très souvent des conseils qui sont donnés aux chercheurs, demandeurs d'emploi et puis futurs créateurs d'entreprises. Vous avez également un suivi avec ces conseils, mais aussi une action transversale. Vous travaillez avec les services de l'État, les chambres consulaires, les communes, les banques même, les entreprises comme les associations.
Bien sûr. Alors donc nous travaillons avec tout un réseau de partenaires prescripteurs, puisqu'associatifs, je rebondis sur ce que disait Freddy tout à l'heure, nous ne faisons pas de publicité ou de commercialisation directe, mais nous avons besoin que les porteurs de projets nous connaissent et nous nous appuyons sur un réseau dynamique, donc de professionnels identifiés et d'associatifs. Donc l'associatif étant regroupé principalement sous le réseau Créateur 04 et également les professionnels que sont les banques, les experts comptables, les assureurs, les notaires, les entrepreneurs. Donc nous avons un partenariat très fort avec Pôle Emploi, avec les chambres consulaires du département. Il faut savoir que la plateforme de Digne, donc Initiative Alpes du Sud, couvre le territoire de 105 communes situées au nord et à l'est des Alpes d'Haute-Provence, sachant que vous avez la plateforme Initiative Haute-Provence qui couvre le sud et l'ouest du département. Nous appartenons à un réseau national, 230 plateformes, qui sont toutes financées principalement par des fonds publics. Nous avons un soutien très fort des services de l'État, puisque notre mission est associée à une mission de service public. Nous avons aussi le concours de partenaires bancaires, qui pour le coup sont très intéressés par notre mission. Nous avons des experts lors des comités agréments qui octroient les financements pour les créateurs repreneurs d'entreprises. Et donc, nos prêts d'honneur et le prêt NACRE aussi sont considérés comme de l'apport personnel, ce qui permet notamment d'aller sur des postes où les banques traditionnellement n'iraient pas, le stock, le BFR, le matériel, les investissements particuliers. Et donc, nous opérons un suivi ensuite, après la création et l'immatriculation de l'entreprise, et ces gages de pérennité, puisque nous avons un excellent taux de pérennité chez nos bénéficiaires, pour les bénéficiaires de la plateforme de DIN, qui couvre, alors je vais le dire un petit peu plus en détail, la vallée du Bail, le moyen Verdon, la moyenne Durance, le pays dinois bien sûr. Nous avons un taux de pérennité d'entreprise à peu près de 85 à 88% à 3 ans. Alors qu'au plan national, vous avez, selon les sources INSEE, une pérennité à 64%. Donc ce maillage territorial, appuyé donc sur ce réseau, nous nous connaissons très bien au plan technique et politique. Et ce travail en connexion, dans le cadre de forums, de journées de la création comme nous les avons créées en 2011, d'ateliers Pôle emploi, la plateforme de Digne intervient les ateliers à la création de Pôle emploi depuis 2011. Voilà, nous avons des partenariats très forts qui permettent pour les porteurs de projets de pouvoir créer leur emploi par le biais de la création d'entreprise.
L'un des atouts aussi, c'est le suivi individuel des projets.
Bien sûr. Alors, dès lors que nous avons décaissé les fonds publics, que sont le prêt d'honneur et le prêt NACRE, nous opérons un suivi de proximité sur le territoire. Donc, nous allons dans l'entreprise. Nous pouvons accueillir aussi les bénéficiaires à la plateforme ou par les moyens modernes que sont le téléphone et les mails. Et donc, nous opérons donc du conseil personnalisé, individualisé, sous le couvert de la confidentialité, et nous abordons tous les aspects. Donc, dans nos territoires ruraux, ce qui est très important, c'est l'intégration au plan local, mais également tous les aspects de comptabilité, gestion, marketing, relations avec les sous-traitants, les fournisseurs, le banquier, l'assureur, qui sont des partenaires, l'expert comptable, bien sûr. Donc, nous regardons et nous envisageons avec les porteurs de projets, les créateurs, nouveaux créateurs, quelles sont en fait leurs difficultés, leurs sources de préoccupation, leurs projets également, puisque nous accompagnons la croissance. Et ça permet que très rapidement, dans les premiers mois, les bons réflexes de gestionnaire soient pris et que l'entrepreneur soit le plus rapidement possible autonome et responsable.
Laure, comme beaucoup autour de cette table, vous avez une expertise sûre. Est-ce que vous pensez qu'elle est reconnue et bien utilisée par les pouvoirs publics, notamment ?
Bien sûr. Alors, déjà, la première preuve de confiance, il y a 30 ans, quand notre réseau est né. Donc, nous sommes le premier réseau de microcrédit des très petites entreprises associatives, un réseau associatif. Nous avons été continués grâce à la volonté des pouvoirs publics. Nous sommes soutenus à 95% par des financements publics, quelques financements bancaires, bien sûr, mais principalement par des fonds publics. Donc, notre expertise est reconnue depuis longtemps. Pourquoi ? Nous sommes associatifs, donc bien sûr, il y a des personnels salariés de grandes compétences, mais nous avons également autour de la table des bénévoles, qui sont notre gouvernance, conseil d'administration, bureau pour toutes les plateformes, mais autour de la table, nous avons des comités d'agrément, constitués d'entrepreneurs, d'experts comptables, de notaires, de banquiers, d'avocats, et aussi tous les représentants du réseau Créateurs 04 pour le 04, et donc chacun est très expert dans son domaine, et ça permet que, notamment pour l'octroi des prêts d'honneur que nous favorisons aujourd'hui au sein de la plateforme, ça permet qu'il y ait vraiment une expertise en amont au plan technique par les salariés et ensuite valider lors des comités d'agrément le projet est-il viable, y a-t-il un marché pour ce porteur de projet et ce porteur de projet a-t-il la compétence pour créer son emploi et donc par le biais de la création d'entreprise. Donc vraiment, nous avons des experts autour de la table et ensuite les parrains d'entrepreneurs, donc ça c'est une particularité des plateformes, nous demandons aux entrepreneurs d'avoir un parrain ou une marraine, engagement bénévole, moral, qui va être une personne ressource supplémentaire pour cet entrepreneur. Donc, il complète le suivi que nous opérons. Nous proposons aussi des formations prises en charge par le biais de partenaires identifiés, de manière à ce que vraiment l'accompagnement soit global et favorise la pérennité de l'entreprise.
Une dernière question, Laure Van Orenberg. Vous êtes professionnelle, vous êtes embauchée par Initiative Alpes du Sud et pourtant, en termes de gouvernance, vous êtes dirigée, entre guillemets, par des bénévoles. Ça crée un problème ou au contraire, c'est un atout ?
C'est un atout. Donc le président de la plateforme de DIN, qui est M. Bernard Pierry, donc également élu à la mission locale, et banquier. Donc c'est pour vous dire, donc au sein de la plateforme, nous avons un bureau de 9 élus, qui sont des chefs d'entreprise, qui sont des représentants des consulaires, qui sont des notaires, avocats. Donc voilà, nous avons vraiment des élus qui sont très représentatifs, avec qui nous sommes en connexion, et c'est une vraie richesse. Pourquoi ? Parce que salariés, notre parcours de formation et d'expérience nous permet de prodiguer du conseil pertinent, mais nous nous appuyons sur des élus qui connaissent parfaitement le territoire d'intervention, hein, donc les 105 communes sur lesquelles nous intervenons. C'est le siège social de l'entrepreneur qui détermine de quelle plateforme vous relevez, et nous nous appuyons sur leur expertise, leurs conseils, et nous sommes sous un modèle associatif loi 1901. Donc les fonds publics sont bien distribués, bien pensés, et donc nous permettons de créer de l'emploi. C'est ce qui est le plus important, et c'est pour ça que nous avons le soutien des financements publics et des partenaires institutionnels.
Et ce sont ces valeurs dont parlait Stéphane Jules tout à l'heure qui animent tous vos administrateurs. Merci Laure, vous restez avec nous à côté. Notre dernier invité qui va intervenir, c'est un homme de terrain, et un terrain qu'il aime bien, respectueux de l'environnement et des valeurs sociales. Bonjour Tristan Klein.
Bonjour.
Vous représentez la coopérative Mosaïque. Quel rôle, quelle utilité ?
Alors, le rôle de la coopérative Mosaïque, c'est en fait dans un paysage où on parle énormément d'emploi et de création d'entreprises, c'est de dire que quand on veut créer une activité, eh bien peut-être on n'est pas obligé de créer une entreprise et qu'on peut quelque part se salarier sur une activité qu'on développe, justement dans un cadre d'entreprise partagée. Donc Mosaïque est une coopérative, une SCOP, donc une SARL, donc c'est une entreprise, mais elle est partagée entre des personnes qui ont un projet d'activité et qui vont le développer sous son couvert. Ça veut dire que la coopérative va apporter des compétences en interne sur de l'administratif, sur de la comptabilité, mais aussi sur qu'est-ce que c'est que de développer une activité au plan commercial ou de la communication. Et donc les personnes vont pouvoir avoir ce service-là et développer leur activité, mais dans un cadre d'entreprise qui existe déjà. Donc la partie, je dirais, administrative d'une création d'entreprise est déjà faite, les assurances sont déjà là, et toute la partie comptabilité au sens des expertises comptables est déjà là, et en plus il y aura un accompagnement au quotidien, je dirais, sur le développement de l'activité. Alors on fait un peu trois phases dans cette intégration dans la coopérative, qui est une première phase où on va être dans un test d'activité, comme pourrait le faire une couveuse, hein. Il y a une couveuse qui s'appelle Diapason là, dans le sud du département. Ben, c'est un peu ce métier là, c'est à dire on va permettre aux gens, tout en restant dans leur statut qui est demandeur d'emploi ou bénéficiaire des minima sociaux, ben, de commencer à tester une activité, donc de voir comment il est capable de faire du métier qu'il a, je dirais une prestation qu'il va vendre à quelqu'un qui sera intéressé par la dite prestation ou le dit produit, ça dépend un peu des types d'activités. Une fois que ce test est concluant, donc on va salarier la personne, c'est-à-dire que sur le chiffre d'affaires qui va rentrer, on va payer tous ses fournisseurs comme il se doit, on va rembourser ses frais, et puis ensuite on paiera des charges sociales patronales et salariales, et puis on dégagera donc un salaire net. Donc on peut dire que la personne, comme elle est responsable de son activité, elle s'auto-salarie quelque part sous couvert de la coopérative.
C'est-à-dire une personne qui a des compétences particulières et que l'on met en musique grâce à tout simplement aux instruments qui sont à votre disposition.
Voilà, donc les gens en général ont un métier en main ou une passion qu'ils ont gardée longtemps de côté puis qu'ils souhaitent à un moment donné exprimer. Et donc on va travailler à partir de cette matière-là, entre le point où ils en sont, qui est généralement un point tout petit, c'est-à-dire pas zéro, mais ça veut dire qu'ils ont un peu idée de ce qu'ils veulent faire assez précisément. Éventuellement, ils ont déjà trouvé un ou deux clients, une ou deux personnes. Et à partir de là, on va construire comment arriver jusqu'à un revenu décent. Après, chaque personne a un peu sa notion du revenu ou ses besoins. Il peut y avoir des personnes qui, en cours de parcours, trouvent un emploi à temps partiel mais qui souhaitent continuer sur une partie de création d'activité. Donc, on va être dans ce cadre-là. Et donc, après, une fois qu'ils sont salariés, on a une troisième étape. C'est une SCOP. Donc, ça veut dire que l'objectif d'une SCOP, c'est que les personnes qui travaillent dans la coopérative soient majoritaires au capital, c'est-à-dire qu'ils en soient les propriétaires. Et donc, on propose aux personnes qui sont salariées dans la coopérative de prendre des parts au capital et donc de devenir copropriétaire de cet outil de travail. Voilà, c'est un peu, la boucle est bouclée. Et donc les personnes peuvent faire tout leur parcours, je dirais, d'entrepreneur dans la coopérative avec un statut salarié en étant responsable de leur activité. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, comme ils veulent. Ils peuvent changer d'activité en cours de route dans la même coopérative, il n'y a pas de souci. On a aujourd'hui une cinquantaine d'entrepreneurs et donc il y a des métiers de toute nature.
Dans quel domaine, Tristan ?
Il y a des métiers dans les soins à la personne, il y a des métiers dans le conseil, le consulting, il y a des métiers dans la formation, il y a des métiers plutôt dans le commerce, du type épicerie bio ambulante ou pizza bio. Voilà. Donc il y a vraiment tout type d'activité. Et puis récemment, depuis 1 an et demi, on a ouvert aussi un secteur sur l'agriculture, puisque effectivement on se rend compte qu'aujourd'hui là c'est une problématique un peu différente, mais quand même, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent, qui ont envie d'aller vers une activité agricole, mais qui viennent pas du monde agricole, et donc qui ont besoin de tester, d'essayer avant de pouvoir s'installer. Donc on leur offre une période de test là aussi. Après ils peuvent sortir et s'installer, ou en fonction de leur projet, ils peuvent utiliser la coopérative comme une exploitation partagée. Là pour le coup on va plus parler d'entreprise partagée, mais c'est une exploitation partagée, et donc à travers cette exploitation partagée, développer une activité agricole, quoi. Donc on parle un peu moins de création, on parle pas de création d'entreprise, puisqu'en fait les gens ils créent pas leur entreprise, l'entreprise elle existe déjà, l'exploitation elle existe déjà, mais on parle de création d'activité.
Tristan Klein, votre poste vous permet-il de mettre en œuvre vos convictions de militants, notamment sur les énergies renouvelables et le traitement des déchets par exemple, l'environnement?
Bah écoutez, en matière d'environnement, la plupart des personnes qu'on a, notamment dans l'agriculture, c'est des gens qui s'installent en maraîchage bio. Donc une partie aussi des activités qu'on a, on a un pizzaïolo qui est sur des produits en circuit court, on a une personne qui a une épicerie bio. Voilà. Donc on va être particulièrement favorable à l'attention, mais je dirais que c'est aussi lié à la nature du territoire et aux porteurs de projets qu'on accueille, quoi. C'est-à-dire qu'ils viennent vers là parce qu'ils sont déjà dans un esprit de partage d'une entreprise et d'ouverture à d'autres, puisque l'objectif de la SCOP, c'est aussi qu'ils travaillent tous ensemble, et qu'ils essayent de s'entraider les uns les autres. Et puis, globalement, ils sont dans un territoire qui a un environnement de grande qualité, donc ils sont très souvent sur des activités. Alors, ça peut être aussi le soin aux personnes, les massages, ce genre de choses-là. Donc, c'est voilà, je dirais que c'est assez naturel et que les gens viennent là-dessus. Donc, moi, je m'y retrouve parfaitement. D'une part, parce qu'on rend un service, donc on répond à un besoin. Donc, ça, c'est une des premières caractéristiques. Ensuite, on le fait dans un cadre collectif et partagé. Donc, ça, c'est effectivement une autre valeur importante de l'économie sociale et solidaire. Quand on dit cadre collectif et partagé, ça veut dire qu'on mutualise un certain nombre de fonctions. Je pense que quand on parlait tout à l'heure d'innovation, je pense qu'aujourd'hui, un des grands champs de la création d'activités aussi, ce sera la mutualisation de services, la mutualisation des besoins à travers lesquels on peut construire des activités nouvelles et donc forcément des emplois nouveaux.
Dernier élément, je vous demanderai de répondre très brièvement, Tristan. On parle beaucoup des SCOP en ce moment avec la loi portée par Benoît Hamon, j'y fais référence tout à l'heure, le fameux droit d'alerte là, qu'il va essayer de mettre en œuvre. Ça veut dire qu'on va se développer dans notre territoire dans notre pays avec des initiatives de plus en plus fréquentes de coopératives?
Bon, on peut que le souhaiter parce qu'il y a un côté, je veux dire, quand une entreprise vous appartient et puis qu'elle vous nourrit au quotidien par le travail que vous développez, il y a peu de chances qu'on ait envie de la délocaliser. Il y a une grande chance aussi qu'on porte attention à l'environnement dans lequel on est, aux services que l'on rend et à son adéquation avec les besoins du territoire. Donc je pense que toutes ces dimensions-là, elles sont dans les projets de SCOP. Je veux dire, les gens qui y travaillent, ils vont pas se tirer une balle dans le pied en faisant des mauvais produits qu'ils vont vendre aux gens qui sont sur le même territoire qu'eux. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, ça crée de la cohérence et je pense qu'aujourd'hui, y compris sur des reprises d'activités, souvent, le savoir-faire, il est dans les personnes qui travaillent dans l'entreprise, quoi. Donc aujourd'hui, de dire, finalement, ce savoir-faire, vous y mettez un peu de financement en plus et puis après, il vous appartient et le produit que vous savez faire, l'essentiel de ce que ça va rapporter, ça vous revient. Et puis le reste, vous le mettez en commun pour faire traiter ensemble des besoins de développement ou de mutualisation ou de recherche ou autre, parce que c'est ça qui va faire évoluer votre entreprise et donc pérenniser votre emploi. Tout ça me paraît des éléments extrêmement sains et tout à fait en adéquation avec un certain nombre de structurations qui auront besoin de sortir d'une approche très industrielle ou de filières très longues, quoi. Voilà.
Merci de cette intervention parce qu'elle permet de dire qu'effectivement l'économie classique est très différente de l'économie sociale et solidaire puisque effectivement ce ne sont pas des actionnaires qu'on va rétribuer, ce ne sont pas des gens qui sont chez eux et qui vont faire travailler les autres pour eux, pour leur propre profit personnel, mais des gens qui travaillent, qui servent un territoire et qui servent leur propre salaire et leur propre activité. C'était une belle définition pour moi ce que je viens d'entendre, Tristan, de votre part. On arrive à la fin de cette émission, je vais vous demander à chacun d'un petit mot de conclusion de manière très, très brève si possible. Tristan, on va commencer par vous.
Bah écoutez, moi, en conclusion, je trouve que c'est bien. Enfin, je suis content de me retrouver avec tous ces gens autour de la table parce que c'est des personnes avec lesquelles on travaille. Effectivement, on a de multiples casquettes les uns et les autres, donc on se croise souvent. Et je pense qu'en partageant les mêmes valeurs, et je crois qu'il y aura du développement d'activités économiques parce que derrière les structures, il y a des femmes et des hommes. Et c'est en étant en rapport avec ces femmes et ces hommes qu'on a envie d'innover et qu'on pense à des choses originales parce qu'on a tous des complémentarités de compétences, d'envie. Et voilà, ce sera ma conclusion.
Laure Van Orenberg.
Oui, merci. Donc, pour la plateforme Initiative Alpes du Sud, je voudrais repréciser et insister, les porteurs de projets qui peuvent nous solliciter sont des publics dits fragiles. 70% de nos bénéficiaires sont des demandeurs d'emploi, des seniors, des jeunes, des femmes, des travailleurs handicapés, des bénéficiaires de minima sociaux. Donc, n'hésitez pas à solliciter des prêts à taux zéro et l'accompagnement global qui va derrière. Voilà, nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner et pour nous appuyer aussi sur le réseau de partenaires qui nous aide à faire qu'il y ait une belle dynamique économique de notre territoire dans les Alpes de Haute-Provence.
Utilisez donc les plateformes d'initiatives locales, que ce soit Initiative Alpes du Sud ou Initiative Haute-Provence, voilà. Et puis les autres plateformes d'initiatives dans notre territoire. Merci Laure, à bientôt.
Merci à vous.
Henri Etcheverry.
Oui, alors peut-être une conclusion un petit peu générale, mais je crois qu'il y a peut-être des éléments à rappeler qui me touchent, moi, personnellement. C'est que l'économie, quelle qu'elle soit, elle s'inscrit dans une sphère qui est la sphère humaine. L'économie doit rendre compte aux intérêts de l'humanité. L'humanité elle-même, elle s'inscrit dans une sphère plus large qui est l'environnement, qui est la planète, et elle doit effectivement être en cohérence avec les besoins, la réalité de cet environnement. Donc le développement durable, quelque part, est une pierre d'achoppement, enfin est un trait d'union entre différentes réalités du terrain. Et moi, ces casquettes-là, parce qu'on parle beaucoup de casquettes, je les relie volontiers entre elles. L'économie sociale et solidaire, effectivement, par la proximité, par la sobriété, par l'innovation, elle est une pierre importante de ce développement durable. Le développement local aussi, en associant les habitants, on parlait conseil de développement, ça me paraît important, c'est aussi une de ces pierres. Et enfin l'éducation populaire, parce que il faut effectivement travailler sur le vivre ensemble, il faut développer l'éducation du citoyen et il faut développer tous les outils d'animation qui permettent d'aller vers une co-construction des politiques publiques. Voilà, donc je crois qu'il y a une vraie logique dans tout ça.
Merci Henri Etcheverry pour la Ligue de l'enseignement et pour l'UDES 04. Stéphane Jules pour Pôle emploi.
Donc très rapidement, j'aurais envie de dire valorisons ensemble l'ESS. Dire aussi qu'au niveau de l'économie sociale et solidaire, il y a aussi des secteurs qui sont des secteurs de pointe. Donc c'est important de le dire aussi. Il y a des secteurs de pointe aujourd'hui dans l'ESS. La création d'entreprise, c'est une vraie solution. On l'a vu avec deux exemples. Avec aussi des coopératives qui, parfois, pour les demandeurs d'emploi, sont à une demi-marche. Donc, c'est très intéressant aussi de le mettre en avant. Donc, voilà. Donc, travaillons ensemble pour mettre les choses en œuvre ensemble.
Merci. Freddy Gelot.
Oui, il me reste quelques secondes, je crois. Donc, je vais faire très vite. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses qui me font plaisir ce matin parce que on voit qu'il y a vraiment des gens compétents, des gens qui ont envie d'aider et d'apporter leurs compétences pour la réussite des projets. Et il faut mettre en adéquation tout ça, parce que moi j'entends parfois des personnes qui essayent de créer, qui n'y arrivent pas, qui ne savent pas par quel bout prendre les choses. Le fait qu'on communique aujourd'hui sur la plateforme d'initiative, sur Mosaïque, est très important, parce que cette adéquation pour l'instant n'est pas correctement faite et il faut continuer de communiquer pour qu'on sache où s'adresser lorsqu'on a besoin. Merci.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Je rappelle qu'elle sera disponible sur notre site internet. Demain, nous avons rendez-vous sur les mêmes thèmes, mêmes sujets, mais avec des personnes différentes. Ce sera à Gap. J'en profite aussi pour remercier toute mon équipe, Odile et Jean-Marc qui nous ont accueillis ici à Digne, et puis Pascal à Manosque qui a travaillé. À très bientôt. Merci et puis bon mois de l'économie sociale et solidaire à tous.
Merci.
Merci.